Bonjour chers auditeurs, au micro c'est Guy Pruvot pour une nouvelle émission des Cahiers de l'Histoire. Et aujourd'hui nous allons parler d'un homme très controversé dans la province de Québec. Il s'agit de Maurice Duplessis. Alors, Maurice le Noblet Duplessis, c'était son nom réel, eh bien est un homme d'État québécois qui est né en avril 1890, à Trois-Rivières exactement, et qui est mort en septembre 1959 à Schefferville. Il est premier ministre du Québec de 1936 à 1939, puis ensuite il est défait et il revient au pouvoir assez longtemps puisque sa nouvelle mandature va durer de 1944 à 1959. Il a dominé avec son parti qui s'appelle l'Union nationale, et bien la scène politique québécoise des années 30, 40 et 50. Alors, je disais, il vient au monde à Trois-Rivières le 20 avril 1890. Et il grandit dans le quartier Sainte-Cécile à Trois-Rivières, dans un foyer modeste, sobre et pieux. Seul garçon de la famille, il était le deuxième de cinq enfants. Et son père était un chef de famille bienveillant, mais distant. Attitude qui, en ces temps et en ces lieux, était considérée propre aux affaires de l'Église, de l'État, de la famille et des corporations. Et en 1898, il quitte sa ville natale pour aller étudier à Montréal, au collège Notre-Dame, tenu alors par les religieux de Sainte-Croix. Au début du XXe siècle, un engouement nationaliste traverse le Québec et la popularité de figures politiques telles qu'Henri Bourassa et Wilfrid Laurier se fait ressentir partout. Alors Trois-Rivières et Duplessis n'y sont pas insensibles. C'est ainsi que, fortement influencé par sa famille et cette vague d'effervescence politique, eh bien Maurice Duplessis suit les traces de son père et s'engage vers le droit. À l'automne 1910, eh bien, il s'inscrit à la faculté de droit de l'Université Laval à Montréal. Cette voie, à l'époque, était le tremplin traditionnel vers la politique, mais aussi vers les affaires. Et pendant ses études, eh bien, il se démarque par sa vivacité, son sens de la répartie, son franc-parler et son entre-gens. Alors pour faire son stage requis par la loi, son père le présente à Rodolphe Monty et Alfred Durand-Lot, deux conservateurs, nationalistes et amis de la famille. Duplessis, après ses études, est reçu avocat donc le 14 septembre 1913. Et il retourne à Trois-Rivières pour pratiquer le droit. Il s'associe alors à son père pendant peu de temps, jusqu'à ce que celui-ci soit nommé juge le 15 juin 1914. Puis il ouvre son propre bureau sur la rue Hart, derrière la demeure paternelle, avec son associé Édouard Langlois, un ancien camarade du séminaire et maintenant mari de sa sœur Gabrielle. Alors, plutôt occupé par les affaires de droit civil que de droit criminel, eh bien Duplessis développe sa clientèle parmi les petites gens et rapidement il se fait une réputation d'avocat compétent, préparant ses causes consciencieusement, attirant une large clientèle grâce à ses plaidoyers efficaces. Sociable, dynamique, parcourant la ville à bord de sa voiture de luxe de marque Winton, Duplessis devient vite une figure populaire à Trois-Rivières. Et il s'implique dans les activités sociales de son milieu, notamment en s'occupant d'une équipe de baseball, et il devient aussi un habitué des tavernes à la mode. Alors Maurice Duplessis se présente une première fois comme candidat conservateur dans Trois-Rivières, à l'élection générale québécoise de 1923, tentant de déloger le libéral Louis-Philippe Mercier, récemment élu 2 ans auparavant. Mercier mène une campagne féroce, jouissant d'une organisation libérale bien rodée, dirigée par son mentor, l'ancien maire de Trois-Rivières. Les deux candidats se serrent d'assez près, mais Mercier est finalement élu, avec un écart de voix de 250. Alors, ironiquement, le 25 avril suivant, eh bien, Étiennette Duplessis épouse Édouard Bureau, l'ancien maire de Trois-Rivières, qui est le fils de Jacques. Excusez-moi, le fils de Jacques, c'est-à-dire le fils de l'ancien maire. Puis, lors de l'élection de 1927, eh bien, Duplessis est prêt à se battre à nouveau. Et cette fois, eh bien, il a tout préparé et ne laisse rien au hasard. Son organisateur est Robert René, un marchand de chaussures, auquel on reconnaît du jugement et même de la psychologie. Alors, aidé par sa mémoire exceptionnelle, des noms et des visages, il visite toutes les familles. Et après une campagne serrée lui permettant de recueillir des appuis dans de nombreuses familles ouvrières et même bourgeoises, eh bien, il est finalement élu à 2622 voix contre 2496 pour son adversaire libéral Mercier. Sa majorité est faible, c'est vrai, 126 voix, mais il s'agit de la première fois en 27 ans qu'un candidat conservateur réussit à remporter la victoire dans cette circonscription, considérée jusqu'alors comme une forteresse libérale. Il sera réélu à 3812 voix contre 3771 pour son adversaire libéral, avec une majorité donc de 41 voix, lors de l'élection de 1931. Alors il s'engage bien sûr là dans la vie politique. Après la démission de Camillien Houde en 1932, le caucus conservateur choisit Duplessis pour être chef de l'opposition. Il fut élu chef du parti lors du congrès de 1933, défaisant Onésime Gagnon. 2 semaines avant l'élection provinciale de 1935, il créa une coalition avec l'Action libérale nationale, l'ALN, et un parti de libéraux réformateurs dissidents et de nationalistes qui avaient claqué la porte du Parti libéral du Québec. Bien qu'il perdît cette élection, Duplessis réussit à exploiter un scandale de favoritisme, on disait à l'époque patronage, impliquant la famille du Premier ministre Louis-Alexandre Taschereau pour obliger ce dernier à démissionner. Alors, l'Action libérale nationale et les conservateurs avaient déjà formellement fusionné en un seul parti qui s'appelle l'Union nationale. Alors, Duplessis mena l'Union nationale à la victoire lors de l'élection d'août 1936, mettant fin à 39 années consécutives de règne libéral. Ceci dit, le premier gouvernement de Duplessis fut défait aux élections de 1939, une élection surprise déclenchée le 23 septembre et qui s'apparenta à un référendum contre une possible conscription, comme en 1917, qui mena à la crise de la conscription. Le Premier ministre pensa exploiter le refus du Québec à la participation canadienne outre-mer à la Seconde Guerre mondiale. Mais le Premier ministre canadien, William Lyon Mackenzie King, et son lieutenant politique québécois, Ernest Lapointe, venaient de leur promettre que la conscription ne serait pas imposée. Lapointe aida Mackenzie King à rédiger sa politique contre la conscription pour le service outre-mer en 1939, et sa campagne électorale aida à battre le gouvernement Duplessis en 1939. Alors Duplessis, refusant de soumettre ses textes à la censure de guerre fédérale, ne put utiliser la radio et fit plutôt sa campagne par des assemblées publiques. En 1942, eh bien, un référendum pan-canadien imposa la conscription et déclencha la crise de la conscription en 1944. L'historien Hugues Théorette indique que l'anticommunisme de Maurice Duplessis le conduit à prendre des mesures considérées comme nettement exagérées. Il fait notamment instaurer en 1937 la loi protégeant la province contre la propagande communiste, connue sous le nom de la loi du cadenas, et qui donnait carte blanche à la police pour cadenasser effectivement tout lieu où logeaient des sympathisants communistes présumés. Duplessis fut reporté au pouvoir en 1944 et il le conserve durant les 15 années suivantes jusqu'à sa mort. Et on l'appelait simplement le chef, parfois le chef. Au total, il a été député pendant 9 mandats consécutifs et premier ministre durant 5 mandats, les 4 derniers étant consécutifs. Et après lui, eh bien, il s'est écoulé presque 50 ans avant qu'un parti politique ne réussisse à remporter 3 mandats consécutifs lors d'élections provinciales québécoises, soit les libéraux de Jean Charest. Alors, les gouvernements de Duplessis furent caractérisés par l'usage généralisé du trafic d'influence, de la lutte anticommuniste, l'emploi de la répression contre les syndicats, ceci est très important. Toutefois, les autres provinces canadiennes utilisaient des méthodes à peu près semblables avec la section 98 du Code criminel. Depuis la grève générale de Winnipeg, entre le mois de mai et le mois de juin 1919. Duplessis avait une machine électorale qui semblait invincible. Son initiative anticommuniste la plus célèbre fut la loi protégeant la province contre la propagande communiste, surnommée, comme je vous le disais, la loi du cadenas. Et l'Union nationale jouissait souvent de l'appui actif de l'Église catholique romaine dans les campagnes électorales. Alors, ce qui caractérise le règne de Duplessis, eh bien, c'est la naissance d'un mouvement d'affirmation de la majorité francophone qui réclamait un contrôle plus important sur l'économie et la vie intellectuelle et artistique du Québec. Ce mouvement mena entre autres à la montée du syndicalisme et au développement d'une vie intellectuelle qui permettra la révolution tranquille lorsque le pouvoir politique changera de main. L'opposition de Duplessis à ces changements, son insistance à museler les syndicats et son manque d'ouverture envers les revendications des francophones qui aspirent à contrôler leur destinée, comme celles qui sont résumées dans le manifeste du refus global, qui date du 9 août 1948, eh bien feront de lui la bête noire des réformateurs. La révolution tranquille, qui cristallisera ses revendications dans la création d'institutions nouvelles et dans un changement en profondeur de l'ensemble de la société, eh bien cristallisera aussi un ressentiment des intellectuels envers Duplessis. Ses alliés resteront aussi stigmatisés puisque désormais ce sera la gauche qui pourra profiter du nationalisme. Que le clergé perdra rapidement non seulement son contrôle sur l'éducation francophone et sur les hôpitaux, mais aussi ses fidèles puisque les églises seront rapidement désaffectées et qu'enfin la minorité anglophone perdra son monopole sur l'économie du Québec. Alors, Maurice Duplessis a changé la manière de percevoir le marketing politique du Québec. Un peu à la manière de Dwight Eisenhower aux États-Unis, eh bien, l'Union nationale utilisait des campagnes à l'américaine pour faire élire Maurice Duplessis. Les campagnes à l'américaine se caractérisent en 5 volets que Duplessis appliquait. Des méthodes de communication fortement personnalisées, le recours à des professionnels de la communication, des décisions stratégiques précédées d'études de marché, un recours également aux médias de masse ainsi qu'aux techniques publicitaires réputées les plus performantes. Et puis finalement, des moyens financiers de plus en plus considérables. D'abord, entre 1930 et 1960, l'image de Duplessis était partout au Québec. En fait, le personnage était littéralement plus grand que son parti. Non seulement Duplessis était au-devant du parti qu'il représentait sur les affiches ou les publicités, mais aussi dans ses discours. Autrement dit, eh bien, les gens n'étaient pas invités à voter pour l'Union nationale, mais plutôt pour Maurice Duplessis. Dès 1939, sur les affiches électorales, il n'était pas inscrit Union nationale, mais Duplessis. Et le parti pensait que le nom du chef frappait plus fort que le nom du parti. Alors, dans le marketing politique, effectivement, les stratégies employées nécessitent plusieurs personnes qui ont comme travail d'étudier l'électorat, d'influencer les masses et de projeter une très bonne image d'un candidat. Et c'est au tournant des années 40 que Maurice Duplessis a construit sa garde rapprochée et s'est entouré de trois personnes qui ont été déterminantes pour sa carrière. Il y avait Joseph Béguin qui s'occupait de l'organisation centrale de la campagne, Paul Bouchard qui agissait à titre de directeur de la propagande, et puis aussi Bruno Lafleur qui était à la fois un publiciste, un documentaliste et puis un rédacteur. Et ensemble, eh bien, ils ont mis de l'avant une propagande aussi massive et dynamique, aussi simple et aussi complète, aussi efficace que moderne. Alors Maurice Duplessis et son équipe n'utilisaient pas les sondages, ce qui a aidé l'équipe de Duplessis à avoir le dessus sur ses adversaires en matière d'études de marché, en 1956 par exemple, et que Bruno Lafleur a eu accès aux données portant sur tous les foyers de tous les comtés. Le pourcentage d'entre eux qui avaient la télévision et ceux qui captaient la station CFCM-TV. De plus, Duplessis organisait des rassemblements pour rencontrer les gens, mais aussi parce que ça lui permettait de constater l'appui qu'il avait et de quoi avait l'air son électorat. Alors plusieurs auteurs, comme Lavigne et Mélenchon par exemple, s'entendent pour dire que Duplessis a remporté ces élections à cause de l'organisation et des stratégies que son équipe mettait en œuvre. Alors, dès 1936, 15 000 catéchismes d'électeurs ont été distribués lors des événements organisés par le parti et dans ces petits carnets. veuillez m'excuser, le programme et les qualités de l'Union nationale étaient mises de l'avant. Et le Parti libéral du Québec était fortement critiqué. Alors, outre la distribution du catéchisme, les publicités du parti à la radio ont grandement contribué à la victoire de Duplessis. En fait, cette omniprésence et cette propagande radiophonique qui était un message narratif professionnel dicté par des artistes populaires a permis de percer le mur du silence. Solidifié par la presse, qui avait un parti pris pour les libéraux. En 1939, puisque les quotidiens préféraient appuyer le parti libéral, les unionistes ont agi de manière autonome, et c'est dans ce contexte que les premières brochures électorales de l'Union nationale ont vu le jour. Et ces brochures sont devenues le message aux électeurs qui informaient le public des idées et des convictions de Duplessis. L'Union nationale a aussi conçu son propre hebdomadaire qui s'appelait Le Temps. Et le vent a tourné en 1944, alors qu'en plus de continuer à produire des brochures, l'équipe de Duplessis s'est associée à plusieurs quotidiens comme Le Devoir, Le Montréal Matin, L'Action catholique, Le Nouvelliste. Et en 1948, chaque comté avait une brochure personnalisée. En 1952, l'Union nationale a innové en mettant le visage de Duplessis et des slogans du parti sur des panneaux réclames placés sur le bord des routes. Et le parti est aussi parvenu à avoir trois pages de publicité dans tous les quotidiens montréalais. Dès lors, pour la campagne de 1956, la publicité de Duplessis a traversé les frontières et s'est retrouvée sur 28 pages du New York Times. De plus, Duplessis est sur la première édition de l'Almanach éclair. La publicité par l'objet a aussi commencé à se développer et Duplessis se retrouvaient donc sur des drapeaux, des insignes, des crayons et des autocollants. Tout au long de sa carrière politique, l'équipe de Duplessis n'a jamais manqué d'argent. Et il s'est assuré qu'il conservait une très bonne image. La stratégie employée a donc été de mettre le visage et les slogans de Duplessis un peu partout dans le quotidien des gens. Par exemple, des photographies ou des dessins représentant le chef de l'Union nationale se retrouvaient, comme je vous le disais plus ou moins, sur les bouteilles de lait, les verres, les casse-têtes et les boîtes de cigarettes. Alors justement, Duplessis avait fait distribuer dans les écoles 250 000 casse-têtes à son effigie en 1956. Et au-delà du fait de voir l'image de Duplessis pendant les campagnes, eh bien les électeurs avaient l'opportunité de le rencontrer régulièrement. Et ces stratégies populistes étaient fortement employées par l'équipe de Duplessis. Et dans le cadre de cette stratégie populiste, eh bien employée, ce dernier se permettait de tutoyer ses électeurs. Autrement dit, Duplessis utilisait l'image de l'homme commun. Et à plusieurs reprises lors de ses campagnes, eh bien Duplessis était présenté plus comme un homme, un citoyen, qu'un politicien. Et très discret sur sa vie privée, Duplessis se disait marié à sa province. C'est pourquoi des auteurs comme Boilly décrivent Duplessis comme étant le parfait exemple d'un leader populiste en expliquant que Duplessis encourageait le développement de l'agriculture, se vantait que l'élite politique régnait avec la corruption et que ce n'était pas son cas, et c'est pourquoi les électeurs se sentaient importants à travers ses discours. Alors, sous le régime Taschereau, les octrois de l'agriculture n'ont pas été accordés en fonction de l'intérêt agricole, non, mais en fonction du patronage et des intérêts électoraux. Aussi, lors d'un discours, en octobre 1939, eh bien, je dis au peuple de la province de Québec, méfiez-vous d'eux, méfiez-vous de leurs promesses. Et plus Duplessis prenait de l'expérience, eh bien, plus ses discours étaient concentrés sur sa personne. Mes amis de Trois-Rivières, vous me connaissez, vous m'avez vu grandir, vous connaissez mes défauts, vous connaissez aussi quelques-unes de mes qualités, parce que j'en ai quelques-unes, vous savez ce que je peux faire. Et ça, c'était des paroles de juin 1956. De plus, au cours de sa carrière, pour marquer les esprits, eh bien, et surtout attirer l'attention et améliorer sa propagande populiste, Duplessis a utilisé plusieurs slogans notables. Par exemple, en 1936, il dit « Redevenons justes et honnêtes ». En 1939, « Soyons maîtres chez nous », qui a inspiré le célèbre « Maître chez nous » des libéraux de Jean Lesage en 1962. Ne prenez pas de chance, votez pour l'Union nationale et ses candidats. Et ceci, c'était un discours de 1944. Les libéraux donnent aux étrangers. Duplessis donne à sa province. Ça, c'était en 1948. Alors, Duplessis fit une de ses contributions les plus durables au Québec le 21 janvier 1948 avec l'adoption par décret du drapeau du Québec, le fleur-de-lysé qui remplaça l'Union Jack au sommet de l'hôtel du Parlement. Et voyez-vous, eh bien Duplessis est mort en fonction. Et il est mort en fonction très loin de chez lui, à Schefferville, le 7 septembre 1959, lors d'une visite à la compagnie Iron Ore du Canada. Il portait un grand intérêt au développement minier dans cette région du nord du Québec. Et Paul Sauvé lui succéda comme chef de l'Union nationale et premier ministre. Et par la suite, eh bien, la société québécoise fut balayée par un vent de changements socio-culturels s'éloignant de ses politiques conservatrices centrées sur l'Église pour se diriger vers un État-providence hautement laïcisé et socialement libéral, phénomène qu'on a appelé la révolution tranquille. Alors, la période de son règne est appelée la grande noirceur par ses adversaires. Le contexte social du Québec était alors, comme il l'a été dans les décennies qui ont précédé la Révolution tranquille, très hiérarchisé, puisqu'on pouvait distinguer une masse de travailleurs généralement francophones d'une classe dirigeante industrielle composée d'anglophones. Et à cela s'ajoutait un clergé qui avait la responsabilité des écoles, des universités de langue française, ainsi que sur tous les soins de la santé. Bien que le jugement de l'histoire ait souvent été dur envers Duplessis, certains font valoir qu'il présida à une longue période d'une forte croissance économique et a déposé 15 budgets parfaitement équilibrés consécutifs. Ce qui n'était pas difficile considérant qu'il y avait peu de services publics. Malgré tout, il créa l'Office du Crédit Agricole du Québec en 1937, qui a pour mandat principal de garantir des prêts octroyés aux agriculteurs. En 1945, il dépose un projet de loi qui transforme la Société d'État Hydro-Québec en organisme du gouvernement, laquelle verse ses profits directement pour l'administration par la province pour réinvestissement dans des achats ou construction de nouvelles centrales, barrages ou même pour améliorer les services sociaux, l'éducation et les soins de la santé. En 1951, son gouvernement accorde par décret la concession de la force hydraulique de la rivière Betsiamitz à Hydro-Québec, aux grandes dames de la Shawinigan Water and Power Company, qui avait des projets sur les rivières de la côte nord. Et la construction d'un village nommé Labrieville fut débutée en juin 1953 pour loger les travailleurs pour les barrages de Central Bercimis 1 et Central Bercimis 2. Au début de l'année 1956, eh bien, les pouvoirs hydrauliques de la rivière aux Outardes et de la rivière Manicouagan sont transférés à Hydro-Québec. Alors, un dernier point, Duplessis ne s'est jamais marié et n'a pas eu d'enfant. Toutefois, il n'a pas été célibataire toute sa vie. En effet, comme le rapporte Conrad Blacks dans sa biographie, eh bien, pendant la Première Guerre mondiale, Duplessis fit une cour assidue à Augustine de Lille, fille d'un marchand de charbon prospère, et il est probable qu'ils auraient fini par se marier, n'eût été de la famille Duplessis, y compris les tantes, qui désapprouvaient un mariage l'unissant à une famille de commerçants. Et finalement, et non sans amertume, eh bien Duplessis déféra au souhait de sa famille. Mais par la suite, à chaque fois qu'il mentionnait certains de ses parents, eh bien il le faisait d'une façon sarcastique et mordante qui laissait poindre son ressentiment. Et à compter de ce jour, eh bien, il sembla avoir pris la décision de ne jamais se marier. Et personne n'a souvenance et rien n'indique que parmi ses nombreuses relations féminines, il n'y eut jamais la moindre possibilité d'un mariage. Il est toutefois resté un homme de famille et fut très proche de ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces. Il eut divers problèmes de santé, notamment du diabète, bien qu'il ne fût pas le seul homme public de son temps à en souffrir. Il eut aussi des problèmes d'alcoolisme pendant une bonne partie de sa vie. Et c'est en 1943, eh bien, qu'il cessa définitivement de boire de l'alcool. Et comme je vous l'avais dit, eh bien, Duplessis aimait particulièrement les sports. Il assistait régulièrement aux parties des Canadiens et écoutait à la radio les parties de baseball des Yankees de New York durant les séries mondiales. Peu actif physiquement, il aimait toutefois jouer aux croquettes et entraînait même une équipe de baseball à Trois-Rivières. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, vous avez eu un aperçu de votre ancien Premier ministre, Duplessis, qui n'a pas conservé une bonne image dans le public. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire dans les cahiers de l'histoire. Merci beaucoup. Au revoir.